sommes le lundi 21 février. Bonjour Alexandra.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la diplomatie d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine porte-t-elle ses fruits? En tout cas, Vladimir Poutine et Joe Biden donnent leur accord selon l'Elysée à la tenue d'un sommet. La Maison Blanche pose tout de même une condition, pas d'invasion de l'Ukraine d'ici là. Les autres titres, Alexis.
Emmanuel Macron envisageait de se déclarer candidat cette semaine. Il va sans doute attendre encore un peu, conséquence notamment de cette implication dans les négociations sur l'Ukraine que l'on évoquait à l'instant. Un vaccin anti-Covid sans ARN messager débarque en France. 1 million de doses de Novavax ont été commandées à destination en priorité des 6% de Français non vaccinés. La PMA pour toutes, mais pas pour tout de suite. Les délais pour tenter une fécondation in vitro s'allongent. Nous irons le constater dans un hôpital alsacien. Et puis OVNI est de retour, la saison 2 de la série française de science-fiction débute ce soir sur Canal.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Alexandra.
Le dossier ukrainien évidemment, Joe Biden et Vladimir Poutine prêts à se rencontrer, dit l'Elysée. Pendant ce temps, Kiev se prépare bel et bien à la guerre. Alors le pire est-il certain? Le président de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, Jean-Louis Bourlange, est notre invité.
Et nous nous retrouverons à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec le secrétaire général du syndicat CGT, Philippe Martinez. Vous posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils se sont dit oui. Le russe Poutine et l'américain Biden ont accepté cette nuit la proposition d'Emmanuel Macron de les réunir pour un sommet sur la crise ukrainienne. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Alexis.
Avec votre micro allumé, je suis sûr que ce sera mieux.
Bonjour Alexis.
Voilà Bertrand, les coups de téléphone longue distance se sont multipliés hier entre Moscou, Washington et Paris.
Oui, avec comme résultat ce communiqué surprise de l'Elysée, un peu avant 2h du matin, annonçant l'accord de Vladimir Poutine et de Joe Biden pour une rencontre au sommet. Il fait suite à la deuxième conversation de la journée hier soir entre Emmanuel Macron et son homologue russe. Le président français avait entre-temps parlé à Joe Biden. L'accord de principe obtenu par la France est soumis à une condition posée par Washington. Joe Biden ne participera que si l'armée russe n'envahit pas l'Ukraine. Le contenu du sommet entre chefs d'État sera préparé lors de la rencontre prévue jeudi entre le secrétaire d'État américain et le chef de la diplomatie russe. Selon l'Elysée, les pourparlers Biden-Poutine seront dans un second temps élargis à toutes les parties prenantes à la crise ukrainienne. À ce stade, aucune indication n'est fournie sur la date ou le lieu du sommet entre les deux chefs d'État.
Oui Bertrand, l'annonce de ce sommet n'est pas encore synonyme de désescalade.
En effet, car les préparatifs militaires côté russe sont confirmés ces dernières heures par des images satellitaires montrant des traces de véhicules traversant des champs enneigés. De plus, les États-Unis restent méfiants et rappellent être prêts à infliger à la Russie des conséquences rapides et sévères en cas d'invasion. Enfin, l'Ukraine a réclamé ce week-end que des sanctions soient appliquées à Moscou sans attendre une éventuelle attaque. Mais cette rencontre, si elle a lieu, marquerait une rupture dans la logique de guerre qui s'est enclenchée. Ce serait aussi un succès diplomatique pour Emmanuel Macron qui a multiplié les initiatives dans ce dossier.
Merci Bertrand Galichet. Direction maintenant Mariupol, ce grand port ukrainien proche du Donbass. Soldats ukrainiens et séparatistes pro-russes s'affrontent depuis plusieurs jours dans cette région frontalière de la Russie. Les pêcheurs de Mariupol s'inquiètent de cette nouvelle flambée de violence 8 ans après le début du conflit au Donbass. Le reportage de Benjamin Illy et Arthur Gerbeau.
Il tient fermement sa canne. C'est lui le pêcheur de toujours, c'est Mykola Vassilovitch, 71 ans. En 2014, il a tout perdu. Les bombardements ont balayé la vie qu'il avait construite. Il raconte, j'avais 2 usines de conserve, 2 usines de construction de bateaux et je faisais de l'élevage d'esturgeons. À cause de la guerre, tout a été détruit.
Mets la main sur le cœur.
Tout ça, c'est mauvais pour mon cœur. J'ai dû être opéré du cœur. C'est devenu beaucoup plus difficile, selon lui. Il explique, pour travailler, on avait un passage de 20 km. On pouvait aller là-bas pour pêcher, car à cet endroit, il y avait de la profondeur. Et maintenant, les Russes ont mis leurs bateaux. Pas les grands navires, mais des bateaux militaires. Alors que la mer est un bien commun.
Est-ce que c'est un métier qui se meurt au bord de la mer d'Azov?
Il confirme. Il s'inquiète. Les bombardements, les tirs continuent. On les entend tout le temps.
Est-ce que la guerre est inéluctable avec les Russes?
Il retient ses larmes, il s'accroche à sa canne. Et Poutine a quoi dans la tête? Personne ne le sait.
Il dit qu'il ne veut pas la guerre. C'est pas cela?
Benjamin Illy.
En France, la campagne présidentielle bat elle aussi au rythme du conflit ukrainien.
Oui Jérôme, car les efforts diplomatiques d'Emmanuel Macron pourraient bien retarder sa déclaration de candidature. Une réunion est prévue ce soir au QG de campagne en présence de nombreux ministres et des ténors de la majorité. Simon Le Baron, le président sortant, ne devrait en effet finalement pas se muer en candidat dès cette semaine.
Et pourtant, tout était prêt pour démarrer avant samedi et sa visite au Salon de l'Agriculture. Un agenda présidentiel bien dégagé et un semblant de désescalade en Ukraine. Mais le regain de tension dans l'Est rebat complètement les cartes, explique un conseiller. Les rendez-vous diplomatiques vont encore s'enchaîner ces prochains jours. Compliqué dans ces conditions de ménager suffisamment de place pour une annonce de candidature réussie. Et hors de question de se déclarer dans les allées du Salon, assure à France Inter l'entourage d'Emmanuel Macron. Ce serait un manque de respect pour les agriculteurs. Une entrée officielle en campagne la semaine prochaine tient désormais la corde. Il est de toute façon obligé de le faire avant la publication de la liste officielle des candidats par le Conseil constitutionnel le 7 mars. Nous ne sommes pas pressés, répète-t-on à l'Élysée, où les proches du président observent avec une pointe de cynisme que pendant ce temps, aucun de ses adversaires ne se détache vraiment.
Et d'ailleurs, assiste-t-on aux prémices d'un nouveau Penelope Gate? La dernière campagne présidentielle avait été marquée par les soupçons d'emploi fictif de la femme de François Fillon. Depuis hier soir, c'est Fabien Roussel qui est dans la tourmente. D'après Mediapart, Fabien Roussel a touché 3000 euros net par mois entre 2009 et 2014 en tant qu'assistant parlementaire, alors qu'il travaillait en réalité pour le Parti communiste. Protocole sanitaire allégé pour les élèves et les professeurs qui reprennent les cours ce matin. Les vacances d'hiver sont terminées pour la zone B. Plus besoin désormais de porter un masque pendant la récré. Les cours de sport en intérieur sans masque sont à nouveau autorisé, tout comme la natation. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles, on y revient dans le journal de 7h30 avec Laurence Thomas. Novavax, le vaccin anti-Covid sans ARN messager, arrive en France cette semaine. Plus d'un million de doses en provenance des États-Unis. Novavax avait obtenu le mois dernier le feu vert de la Haute Autorité de Santé. Les précisions d'Anne Orenstein.
C'est seulement en primo-vaccination que sera proposé Novavax. Le vaccin, vendu sous le nom de Nuvaxovid, s'adresse donc aux 6% de Français éligibles qui ont jusqu'ici refusé toutes les injections. S'ajoutent aussi ceux qui se sont arrêtés à la première dose, par exemple après des effets secondaires trop importants. Les territoires d'outre-mer seront donc les premiers servis. 100 000 doses ont déjà été commandées et repartiront par le premier avion. Preuve que Novavax se rassure déjà avec sa technologie différente de l'ARN messager. C'est un vaccin sous-unitaire, c'est-à-dire avec des nanoparticules du virus et un adjuvant qui va apprendre à notre système immunitaire à réagir. C'est le même principe qui est utilisé pour la coqueluche ou l'hépatite B. Il nécessite deux injections à 3 semaines d'écart. En métropole, le Nuvaxovid sera disponible seulement dans les centres de vaccination, mais les officines et les médecins de ville pourront s'y fournir s'ils ont des demandes.
Les files d'attente s'allongent pour les patientes et les patients engagés dans une tentative de PMA, la procréation médicalement assistée. Les délais pour une fécondation in vitro ont augmenté depuis l'épidémie de Covid, mais aussi depuis le vote de la loi de bioéthique qui ouvre la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. En septembre dernier, Olivier Véran avait promis de réduire les délais à moins de 6 mois. Mais Antoine Ballandra, on n'y est pas encore. Illustration dans un hôpital de Schiltigheim près de Strasbourg.
Caroline a dû attendre 7 mois pour pouvoir se lancer dans une deuxième FIV après une première qui n'a pas fonctionné. Cette jeune Alsacienne de 30 ans reste pourtant très motivée, malgré les mois d'attente très difficiles à supporter.
Clairement, pour nous, les délais, c'est assez catastrophique, quoi. Enfin, je sais pas, à la base, au début, sur le site, c'était écrit que le délai d'attente entre 2 FIV, c'était 3 à 4 mois. Dites-vous que là, j'ai eu plus de 7 mois d'attente entre mes 2 FIV, donc c'est vrai que c'est quand même hyper long.
Il faut aujourd'hui 6 à 8 mois pour obtenir une prise en charge en PMA. C'est beaucoup, beaucoup trop long, reconnaît la professeure Catherine Rongière, gynécologue obstétricienne au CMCO.
Ça nous met dans une situation d'inconfort absolu pour les patientes. C'est très compliqué de voir à quel point c'est douloureux pour eux et c'est aussi douloureux pour nous.
Le vote de la loi de bioéthique en juin dernier a fait augmenter rapidement les demandes sur fond de départ de personnel après la crise du Covid, explique Catherine Rongière.
On s'est retrouvé avec un problème de ressources humaines semaines difficilement organisables. On a dû diminuer le nombre de prises en charge et en même temps arriver la nouvelle loi de bioéthique. Les premières personnes qui ont trinqué, ben, c'est nos patients en fait. Alors certes, c'est pas vital, mais malgré tout, c'est ce qui fait aussi le sens de la vie, quoi.
Aujourd'hui, vu les délais d'attente, de nombreuses patientes décident d'aller en Belgique ou en Espagne pour une prise en charge plus rapide.
Un reportage signé Antoine Ballandra de France Bleu Alsace.
Le retour ce soir sur Canal Plus d'une série acclamée par la critique.
OVNI saison 2 propose à nouveau ce cocktail culotté de science-fiction et de comédie franchouillarde qui fleure bon les années 70. Melville Poupeau retrouve son rôle de scientifique à l'esprit cartésien placé à la tête du GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Alexandra Akoun s'est replongée avec plaisir dans cet univers ovniesque.
Avec un Didier Mathur désormais habité par sa première expérience extraterrestre, qui lorsque s'ouvre cette deuxième saison bat la campagne, barbe et cheveux hirsute à bord d'un ovnibus avec Vera.
Alors du nouveau, monsieur Mathur ?
Non, zéro ovni. C'est pas grave. Il nous reste le marché de Montflanquin et la fête du prunoage. Cette fois, je sens que ça va mordre.
Génial Melville Poupeau, plus cartoonesque que jamais.
Je me suis revu beaucoup de Louis de Funès et je me suis dit, le but, c'est d'atteindre ce niveau d'énergie. Cette idée que les postures, le corps, le visage, tout ça doit agir à 100 à l'heure.
Son salut, il va venir d'une barbe à papa géante, étrangement arrivée dans une centrale nucléaire, occasion de réunir toute la bande du GEPAN, même si au début, certains sont récalcitrants.
L'ancien Rémi leur a dit que c'est une sorte de blob extraterrestre. Mais le nouveau Rémi dit juste, qu'est-ce qu'on fout dans une centrale nucléaire en plein milieu de la nuit ?
De l'humour à foison, des toujours aussi bien ciselé.
Et ta sœur, elle balbeur ?
Bonne nuit, Marcel.
Et des personnages qui gagnent en épaisseur.
Il y a vraiment une mécanique scénaristique très poétique et tous les personnages rentrent dans des délires et les gens autour essayent de prouver qu'ils ont tort avec des éléments cartésiens et eux-mêmes, à force de chercher des preuves, finissent par douter. C'est très intéressant de voir des personnages qui, sans tomber dans la folie ou dans le ridicule, se posent des questions.
Pour une deuxième saison clairement ouverte sur une troisième, ça tombe bien, on adore.
Vous êtes au GEPAN, nous ne pouvons traiter votre demande pour l'instant.
Le sport, le football avec la mauvaise opération de l'OM hier soir au Vélodrome, battu 2-0 par Clermont. Les Marseillais conservent la deuxième place du classement de Ligue 1 derrière Paris, mais ils n'ont plus qu'un point d'avance sur Nice. Soirée ratée aussi pour les rugbymen de Bordeaux-Bègles, surpris à domicile par le Racing 92, score final 16-13. Cette deuxième défaite consécutive pour les Girondins ne les empêche pas de conserver la première place du top 14. Mais Montpellier, leur premier poursuivant, n'a plus que 5 points de retard. Et puis il y avait du beau monde cette nuit dans la salle de basket de Cleveland aux États-Unis. La NBA, la Ligue de basket nord-américaine, a soufflé sa 75e bougie. Pour l'occasion, les légendes Michael Jordan, Magic Johnson et autres Karim Abdul-Jabbar ont reçu une standing ovation sur le parquet à la mi-temps d'un match des étoiles remporté in extremis par l'équipe de LeBron James. Le Français Rudy Gobert a marqué 6 points.
L'accolade LeBron James, Michael Jordan, l'une des images sportives de la nuit. Merci Alexis Demeyer. Le zoom dans 3 minutes, de nouvelles méthode de chasse à l'essai dans le massif du Morvan.